OK, on va continuer notre série qu'on a commencé sur le survol des 66 livres de la Bible. La première leçon est un peu longue, mais c'est nécessaire de faire un survol général de l'ensemble des 66 livres des Écritures. Alors, au cours des deux dernières semaines, on avait regardé comment la Bible nous est parvenue. Le fait qu'elle ait été inspirée par le Saint-Esprit, le fait qu'elle ait été aussi écrite sur une période de 1500 ans par plus de 40 individus différents, qui fait en sorte que c'est miraculeux de voir l'unité des Écritures malgré la longue, très longue période de temps sur laquelle la Bible a été rédigée par plusieurs, par 40 auteurs différents. Et on avait regardé un petit peu aussi l'organisation de la Bible à l'intérieur, les livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, le nombre de livres. Donc, on avait vu qu'il y avait 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau. On avait aussi regardé le fait que les Juifs organisent les livres de la Bible de façon différente de nous, ceux qui avaient le tableau, là. Vous aviez cette information-là. On avait regardé quelques statistiques. On avait regardé aussi la façon de mesurer le temps par rapport à l'Ancien Testament. Donc, les années, quand on dit « avant Jésus-Christ », c'est BC, quand on voit dans des livres, il marque BC, « Before Christ ». Alors, les années à partir de Christ, en s'en allant vers Adam, les chiffres augmentent. Donc, 200 ans, 400 ans avant Jésus-Christ, 600 ans, 1000 ans avant Jésus-Christ. Et à partir de l'an zéro, que Christ, ben là, on suit l'ordre qui augmente encore, mais dans l'autre sens. Donc, c'est important de savoir ces choses-là, parce que quand vous lisez des commentateurs, vous allez, souvent, ils vont utiliser des expressions comme AD, BC, puis si on ne sait pas ce que ça veut dire, ben ça ne nous aide pas bien, bien. On avait regardé aussi la semaine dernière une présentation générale du livre et on avait aussi regardé que la Bible se divise en deux grandes parties et on était rendu à peu près là. Et on était rendu au troisième point, on va le terminer ce soir. Et je voulais vous rappeler aussi que normalement, on devrait, je l'ai dit samedi, mais ceux qui n'étaient pas là, ceux qui viennent le mercredi, c'est qu'il va y avoir des leçons de survol. Parce que la plupart des leçons, ce qui arrive, c'est que quand je les ai données la première fois, ils sont organisés pour des leçons de entre 45 et 1 heure. Alors, souvent, pour donner une leçon, ça va prendre deux séances du mercredi. Alors, la manière qu'on veut fonctionner, c'est que on va avoir nos deux leçons. Autrement dit, on va terminer une leçon qui va se donner en deux fois le mercredi. Ensuite, on va alterner avec la nouvelle série sur les attributs de Dieu. Comme la semaine prochaine, ça va être le premier sermon sur les attributs de Dieu. Donc, on va toujours fonctionner comme ça le mercredi pour aussi longtemps que la série va durer. On était rendu au troisième point. Le troisième point, c'est les considérations pour l'étude sérieuse de la Bible. Autrement dit, si on se dit, est-ce qu'on se devrait d'étudier la Bible? Je pense que la réponse est oui. Mais quand on regarde combien de personnes dans les églises chrétiennes que moi j'ai connues qui font une étude sérieuse de la Bible, et malheureusement, je dois dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais ça c'est malheureux. Une des différences, on parlait de l'Apocalypse dimanche, on disait pourquoi les gens de l'époque de Jean, quand ils se faisaient écrire le livre de l'Apocalypse, pourquoi ils comprenaient? Parce que c'est bourré de références à l'Ancien Testament. Et si on ne les connaît pas, les livres de l'Ancien Testament, puis qu'on essaye de lire un livre comme l'Apocalypse, c'est pas trop long qu'on est égaré. On ne comprend pas le symbolisme. Pourtant, le symbolisme, il est là, mais il est dans toutes les Écritures. Et c'est une étude sérieuse de la Bible qui nous amène à développer notre connaissance des Écritures. Et la Bible nous commande d'étudier la Bible. Je pense qu'on est paresseux un petit peu. Ça, il faut aller chercher. Si on veut étudier la Bible de façon sérieuse, il faut aller chercher des outils, des dictionnaires, et plein d'outils, là, des commentaires. Il faut se donner du temps. Il faut s'imposer du temps. Comment ça serait rien qu'une heure par semaine ou que tu fais juste ça? Et si quelqu'un ferait ça pendant sur plusieurs années, on serait pas le même type de chrétien. On serait plus fort. On serait beaucoup plus fort. Alors ici, on regarde 10 raisons d'étudier la Bible avec des versets. La première, je pense que c'est connaître Dieu. Jean chapitre 17, verset 3, ça dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Connaître Dieu sans étudier la Bible, ça se peut, là, mais c'est une connaissance qui est imparfaite, qui a besoin d'être développée. Et ça, c'est le travail de toute une vie. Ça ne veut pas dire qu'après que quelqu'un a fait un cours biblique, que c'est tout. Là. Bien, plus tu apprends, plus tu te rends compte qu'il t'en reste beaucoup encore à apprendre. Alors, la première raison, connaître Dieu. La deuxième, aimer Dieu et en faire ses délices. Job, chapitre 22, verset 26. « Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face. » L'expression « faire du Tout-Puissant ses délices », on sait ce que c'est, quelque chose de délicieux, c'est quelque chose dans lequel on se complaît, qu'on aime. Est-ce que vraiment on lit la Bible ou on l'étudie avec cette attitude-là de trouver nos délices dans la personne de Christ? Je pense qu'on a du chemin à faire là-dessus. La troisième raison, c'est pour bien connaître la Sainte Parole de Dieu. Moi, je vous parle par expérience. Je peux dire j'ai 40 ans de vie chrétienne, d'expérience de vie chrétienne. Je peux vous dire une chose, c'est que j'ai été rarement impressionné par la connaissance de la Bible de ceux que j'ai connus. Peut-être qu'ailleurs, c'est différent, mais moi, je parle de ce que je connais. Là. Connaître la parole de Dieu, quand tu dis que tu écoutes des chrétiens, que ça fait 25 ans, 30 ans qu'ils sont chrétiens, puis ils n'ont même pas lu la Bible encore une fois d'un couvert à l'autre, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. Si tu dis que c'est le livre de Dieu, si tu dis que c'est le livre qui vient t'enseigner, qui vient te montrer comment vivre, puis tu ne l'as même pas lu encore une fois, puis ça fait 30 ans que tu es chrétien, il y a quelque chose qui se passe là. Alors, on devrait se questionner sur le fait qu'on connaisse la Bible, ça dépend de nous. Dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17, nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, le but de l'étude, c'est de te rendre, de te préparer au service, autrement dit. Toute bonne œuvre, toutes les œuvres que Dieu veut que tu pratiques. Quatrième, c'est de comprendre les Saintes Écritures. Je dirais que c'est à peu près impossible de comprendre la Bible sans étude. Par exemple, j'ai donné l'exemple récemment du livre d'Hébreux. C'est un livre que j'ai prêché là, quand j'étais à Rouyn-Noranda. Je défie n'importe qui de venir m'expliquer certains passages du livre d'Hébreux s'il n'a jamais étudié l'Ancien Testament. S'il n'a jamais étudié l'Exode, il n'a jamais étudié le Tabernacle, il n'a jamais étudié le livre de Lévitique ou des choses comme ça, je défie. On ne peut pas comprendre la Bible, certains livres, si on n'a pas une connaissance un petit peu développée de certains autres livres de l'Ancien Testament. Comprendre les Écritures, quatrième raison, Proverbe 8, versets 8 et 9, « Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux, ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droite pour ceux qui ont trouvé la science. » Cinquième raison, pour bien se diriger dans la vie. Psaume 119, verset 11. « Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Ça veut dire quoi, serrer la parole dans ton cœur? Ça veut dire la prendre par cœur, la mémoriser. Puis l'abus de mémoriser, ça le dit dans le texte. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Plus on a une connaissance approfondie des Écritures, plus ça va être un frein au péché. Parce que la Bible va nous remonter à l'esprit continuellement. Donc, bien se diriger dans la vie, cinquième raison. Sixième raison, pour trouver du réconfort et de l'espérance, dans Romains chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Juste un verset qui nous dit que tout ce qui était écrit dans l'Ancien Testament, ça a été écrit pour notre instruction. Puis il y a un autre passage dans 1 Corinthiens qui dit que c'est pour nous servir d'exemple. Alors, si on lit l'Ancien Testament et qu'on ne retient pas les leçons que le Seigneur veut nous enseigner, c'est comme on perd notre temps. On lit quelque chose, mais le Seigneur il nous dit ici, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. La Genèse a été écrite pour notre instruction. L'Exode a été écrit pour notre instruction, etc. Jusqu'à toute la Bible au complet. Septième raison, pour laisser Dieu exposer nos pensées secrètes et nos désirs. N'est-ce pas que c'est lorsque l'on lit les Écritures que Dieu vient nous montrer jusqu'à quel point on est pourri, jusqu'à quel point on est pécheur. Hébreux, chapitre 4, versets 12 et 13. « Car la parole de Dieu est efficace, est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Huitième raison, pour se purifier et pour se sanctifier. Jean, chapitre 17, versets 17 à 19. « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Neuvième raison, pour apprendre à aimer le prochain. Jean, chapitre 13, versets 34 et 35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et la dixième raison, c'est pour obéir à la grande commission qu'on appelle, qui est l'évangélisation. Dans Matthieu 28, le Seigneur nous dit dans les versets 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, 10 bonnes raisons qu'on vient de regarder. Et lire et étudier toute la Bible pour vraiment bien comprendre et pratiquer l'étude de la Bible. Lire systématiquement et avec attention l'Ancien Testament peut être une expérience intimidante. Je ne sais pas si vous vous souvenez la première fois que vous avez lu votre Bible au complet. Moi, je me souviens, j'étais au cégep de Sherbrooke, puis un pasteur il avait dit, « Mes amis, c'est important que vous vous habituiez à lire votre parole d'un couvert à l'autre. » Puis c'est drôle, ça n'a pas sorti par l'autre oreille, ça a resté. Fait que dès le lendemain matin, j'ai commencé à lire la Bible, je l'avais jamais lu au complet. J'ai commencé par Genèse, puis j'ai avancé. Je peux vous dire qu'il y a des bouts que je comprenais à rien, pas en tout. Mais ça fait rien, au moins j'avançais. Alors, faire l'effort de comprendre l'Ancien Testament produit inévitablement de bons fruits dans nos vies, dans tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, récits, poèmes, prophéties. Il y a des chants, il y a des cantiques, il y a des prières, des proverbes, des instructions. On voit comment Dieu travaille avec l'humanité, et ceci à la fois pour son peuple en particulier et les nations en général. Si vous lisez l'Ancien Testament, c'est vrai que vous allez voir comment Dieu travaille avec son peuple. Quand ils obéissent, c'est pas compliqué, hein? Quand ils obéissent, ils sont bénis. Puis quand ils s'en vont dans l'idolâtrie, le Seigneur les corrige. Et il nous montre aussi de quelle façon le Seigneur agit avec les nations. Des fois, il se sert d'une nation pour corriger son peuple, puis après, il dit, « Ouais, vous avez... » Il est rend responsable, malgré même si c'est lui qui dirige sa main pour les corriger. Alors, voici ce qu'il faut garder à l'esprit lorsque nous lisons l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est la parole de Dieu au même titre que le Nouveau Testament. Ça, je dois dire, et je trouve ça très triste, à un moment donné, j'étais allé dans une église une fois à Farnham, puis j'ai entendu une femme qui disait, « Moi, l'Ancien Testament, je ne suis pas capable. » À combien de temps qu'elle est chrétienne? 25 ans. C'est laid. Une femme de 25 ans de vie chrétienne qui dit que l'Ancien Testament, elle ne lit pas ça parce qu'elle n'est pas capable. Il y a quelque chose dans son instruction. Il y a un gros trou dans son instruction. Deuxièmement, la compréhension du Nouveau Testament est grandement améliorée par l'étude de l'Ancien Testament. Tout à l'heure, je donnais juste l'exemple d'Hébreu, parce que ça en est une excellente. Là. Essayez de lire le livre d'Hébreu et de comprendre que ce qui est dit là, si vous n'avez pas une connaissance du tabernacle dans l'Ancien Testament. Il parle de l'autel d'or, il parle de toutes sortes de choses que si on n'a jamais vu ça, dans l'Ancien Testament, on comprend à rien. Lire un livre, même du Nouveau Testament, si tu ne comprends pas ce qu'il est en train de dire, ça ne donne pas grand-chose, ça. Parce que la Bible est là pour nous montrer des choses, puis qu'on fasse des liens entre ce qui est enseigné dans le Nouveau par rapport à l'Ancien. La grâce de Dieu pour l'humanité est aperçue, bien entendu, tout au long de l'histoire de l'Ancien Testament. Tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament nous sert d'exemple et nous a été donné pour notre instruction. Voyez-vous, dans 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 11 et 12, ça dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Dieu, les deux raisons sont ici dans 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 10. Nous servir d'exemple. Quand on lit dans l'Ancien Testament, qu'on voit une histoire, là, on l'a fait la Genèse récemment, là. Si on regarde ça, puis on voit juste une petite histoire qui nous est racontée, on comprend. Il y a des choses, il y a des principes que le Seigneur veut nous enseigner. Par exemple, on lisait l'histoire de Joseph. Il y a plein de choses qu'on apprend pour notre sanctification pratique, en observant ce que le Seigneur est en train de nous enseigner. Donc, l'Ancien Testament nous aide à reconnaître les voies de Dieu dans le monde. Maintenant, ça, j'avais trouvé ça quelque part sur Internet, quand je l'ai mis, cette section-là, dans ceux qui ont les notes, là. Des principes de base pour étudier la Bible en profondeur. Alors, l'étude sérieuse de la Bible est importante pour notre croissance chrétienne. Jésus compare la lecture avec la semence plantée dans une bonne terre. Luc, chapitre 8, versets 11 à 15. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et il enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Voyez-vous, le Seigneur prend l'exemple de 4 semences, puis il y en a 3 qui valent rien du tout. Il n'y en a rien qu'une qui est bonne. Puis quand vous regardez les caractéristiques de celle qui est bonne, ils l'ont entendu avec un cœur honnête et bon. Ils l'ont retenu. Retenu, ça veut dire qu'ils l'ont retenu pour l'appliquer, pour lui obéir. Et qui porte du fruit. Donc, avec persévérance. Il y a 4 choses qu'on se doit de faire si on veut étudier la Bible avec profit. 4 principes. Et les 4 principes sont les suivants. La sélection, l'observation, l'interprétation et l'application. Souvent, le dimanche, quand je vais faire une leçon, qu'est-ce que je dis? Quelles sont les applications qu'on peut... Une application, c'est après qu'on ait étudié un texte, comment ça s'applique à ma vie de tous les jours, à ma vie, à moi? C'est ça, là. Alors, on va regarder un petit peu plus près les 4 principes. La sélection. La sélection, autrement dit, c'est quelle partie de la Bible que tu étudies, quel livre, quel passage. Alors, c'est... qu'est-ce que j'étudie? Je vais vous laisser, ceux qui ont les notes, je vais vous laisser les regarder parce que ce soir, j'aurai pas le temps de regarder les 4 principes en détail parce qu'il y a trop de stock par rapport au temps qui nous reste, là. Mais vous regarderez la sélection. Et autrement dit, il y a plusieurs, toujours commencer par une prière sincère et fervente. Ça, faut jamais oublier ça. Quand on étudie la Bible, faut prier. Ensuite, tu deviens très familier avec la Sainte Bible. Tu mémorises l'ordre des livres, ça c'est une bonne chose à faire. Troisièmement, tu sélectionnes le passage que tu veux étudier. Tu détermines où il commence et où il finit. Tu choisis une version de la Bible. Et ensuite, il y a des choses qu'il faut que tu cherches à éviter. Ne jamais utiliser un verset hors de son contexte. Faire attention à ce qu'on appelle le littéralisme excessif et plein d'autres choses. Alors, ceux qui ont les notes, je vais vous les laisser reviser. Donc, c'est la première chose à faire. Quand tu veux étudier la Bible, faut que tu détermines d'abord qu'est-ce que tu veux étudier. Si tu dis, j'étudie Genèse 3, ben, tu étudies Genèse 3. Alors, l'observation, si autrement dit, la sélection, c'est qu'est-ce que j'étudie. L'observation, c'est qu'est-ce que je vois. Tu utilises des outils. Des bibles d'études, des commentaires, des dictionnaires bibliques, des encyclopédies bibliques. Ici, j'ai mis ISBE, là, c'est International Standard Bible Encyclopedia. Des manuels spécialisés, une concordance, un interlinéaire, des cartes, un atlas, une chronologie biblique, un index de sujets. Si quelqu'un veut étudier sérieusement la Bible pour tout qui se graille, de ces outils-là. C'est drôle qu'on a toujours de l'argent pour aller dépenser au restaurant. On a toujours de l'argent pour s'acheter toutes sortes de bebelles, mais on n'a jamais d'argent pour s'acheter des bons outils. C'est bizarre, ça. Hein? Ensuite, tu observes le texte. Ensuite, tu observes le contexte. Qu'est-ce qui est dit avant, qu'est-ce qui est dit après. Ensuite, tu observes le cadre historique. Parce que, bien entendu, il faut que tu saches quand ça s'est passé, quelles étaient les circonstances historiques de l'époque, etc. La troisième chose, c'est rendu au niveau de l'interprétation. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Autrement dit, c'est la question qui résume l'interprétation, c'est qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a 4 aspects à examiner quand quelqu'un veut interpréter. La question linguistique. Donc, à quelque part, des fois, c'est important de connaître qu'est-ce que l'hébreu dit, qu'est-ce que les grecs disent. Ensuite, il y a la question historique. Dans quelles circonstances le livre a été écrit, pourquoi, à qui, etc. Et ensuite, la question théologique. Qu'est-ce que ces vérités-là nous enseignent sur la nature de Dieu? Qu'est-ce que ça nous enseigne sur la nature humaine? Qu'est-ce que ça nous dit sur le péché, sur la rédemption, sur le salut, sur l'Église, sur la vie chrétienne, autrement dit? Les questions théologiques que tu ressors du texte, et la question tactique, comment chaque paragraphe s'insère-t-il dans la pensée globale de l'auteur et de son message. Et la dernière chose, qui n'est pas la moindre, ce serait très, très certainement l'application. Comment cela s'applique-t-il dans ma vie de tous les jours? Si tu étudies un passage, puis que tu ne poses pas la question à la fin, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie, ça? Alors, il y a vraiment plusieurs choses dans l'application. Alors, il y a la question, et je n'ai marqué quatre, la question contemporaine, c'est autrement dit, qu'est-ce que ça voulait dire pour les gens qui recevaient l'instruction à l'époque où ça a été écrit? Qu'est-ce que ça voulait dire pour eux? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, personnellement, aujourd'hui? Et la dernière, c'est la question finale. Qu'est-ce que je vais faire avec ce que j'ai appris? Quel but personnel vais-je installer dans ma vie pour implémenter les vérités apprises? Comment ce passage va-t-il modifier ma relation avec Dieu? Et, quatrièmement, tu termines par la prière. Tu pries pour que l'Éternel te donne la force de croître à travers tes études personnelles de la Bible. Trois applications. Première application, implorons l'Éternel de nous donner le goût de lire et d'étudier systématiquement tous les livres de la Bible. Nous serons très richement récompensés si nous le faisons. C'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de faire une série, un survol sur tous les livres de la Bible. Bien entendu, ça ne fait pas de notre survol une étude sérieuse, approfondie, mais au moins, tu as une idée de tout ce qui se passe dans toute la Bible. Deuxièmement, deuxième application, soyons conscients que l'étude sérieuse de la Bible exige deux choses, du temps puis des efforts. Ça se fait pas tout seul, c'est pas de la science infuse, il faut des fois qu'il y ait un petit peu de transpiration. Elle demande également que nous nous équipions avec des outils, comme je disais tantôt, une Bible d'études, des cartes, une concordance, un dictionnaire, un interlinéaire, une encyclopédie. Et je mentionne encore une fois, nous dépensons parfois beaucoup d'argent pour des choses beaucoup moins profitables. Alors passons à l'action dès aujourd'hui en nous achetant les outils nécessaires pour pouvoir étudier la parole. Troisièmement, sachons que nous sommes toujours réfractaires au changement. Ayons la victoire sur notre paresse naturelle. Le plus grand voyage commence par le premier pas. Prions et agissons tous les jours. Notre proximité avec Dieu et notre consécration augmentera et nous honorerons le Seigneur. Que l'Éternel nous éclaire, nous motive et nous donne le vouloir et le faire pour étudier sa sainte parole par sa grâce et pour sa gloire. Amen.